nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, le fort du Mont-Valérien, situé à Suresnes, sur la ligne des forts de la ceinture parisienne, est utilisé par les nazis comme lieu d'exécution des résistants et d'otages. Les condamnés, pour la plupart issus des prisons environnantes, sont fusillés, à l'abri des regards, dans une clairière située en contrebas de la forteresse. L'état actuel des recherches historiques permet d'identifier plus d'un millier de fusillés, parmi lesquels Honoré Étienne d'Orves et les 22 membres du groupe Manoukian. Conduits à la forteresse, puis dans la petite chapelle avant leur exécution, les condamnés étaient fusillés dans la clairière. Les corps étaient ensuite dirigés vers les fosses communes des cimetières alentour, dans l'anonymat. Le 1er novembre 1944, le général de Gaulle a souhaité se recueillir dans la clairière, puis au fort de Vincennes, autre lieu de fusillade, en hommage aux morts de la Résistance. Dès 1945, le Mont Valérien est choisi pour accueillir un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, sous la direction d'Henri Freinet, 15 corps de combattants originaires de la France et de ses colonies, dont deux femmes, et symbolisant les différentes forces de la Résistance, sont déposés dans une crypte provisoire. Devenu président de la République, le général de Gaulle décide de la création d'un véritable mémorial, conçu par Félix Bruno, inauguré le 18 juin 1960. Chaque année, à la date du 18 juin, la chancellerie de l'Ordre de la Libération y organise une cérémonie de commémoration de l'appel du général pour sauver la France, lancé sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Sur une vaste esplanade, un long mur de grès rose a été accolé au rempart en meulière de la forteresse. Au milieu, une grande croix de Lorraine de 12 mètres de haut, elle aussi en grès rose des Vosges, surplombe la flamme toujours allumée à la mémoire des combattants. Resté dans son état d'origine, le monument a une forte puissance évocatrice. Sur ce contre-mur jaillissent à intervalles réguliers 16 hauts-reliefs, 16 métopes, pourrait-on dire, en référence à l'architecture des frontons et aux frises de la Grèce antique. Chacune de ces pièces de bronze, situées en hauteur, correspondent soit à une bataille, soit au maquis, soit à la déportation, soit encore aux fusillés. Disposées de part et d'autre de la Grande Croix de Lorraine, quatre de ces hauts reliefs sont l'œuvre de membres de l'Académie des Beaux-Arts, aujourd'hui disparus. Pour évoquer ces bronzes représentatifs d'un art de la sculpture classique, retrouvons au micro de Canal Académie, face aux œuvres et un peu sous la pluie, Gérard Lanvin, membre de l'Institut, sculpteur de l'Académie des Beaux-Arts, Lydia Arambourg, historienne et critique d'art, correspondante de la section sculpture de l'Académie des Beaux-Arts, et Chloé Théo, directrice des hauts lieux de mémoire d'Île-de-France, qui nous accueille sur le site. Histoire, mémoire et art regardent aujourd'hui sur les sculptures du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien.
Chloé Théo, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes devant le mémorial de la France combattante sur le Mont-Valérien, face à un grand mur, un contre-mur de grès rose, sur lequel s'incrustent 16 hauts-reliefs de bronze qui ont été placés là au moment de l'inauguration en 1960. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous retracer rapidement l'historique de la venue de ces hauts-reliefs ici au Mont-Valérien ? La raison, etc.
Oui, bien entendu. Alors donc, c'était une décision du général de Gaulle qui, dès 1944, a décidé de faire du Mont-Valérien un lieu de mémoire parce que c'était le principal lieu d'exécution des otages et des résistants en France. Parce qu'en 1941 a été occupé le fort, parce qu'en fait c'est une enclave militaire encore en activité. Donc en 1941, le fort a été occupé par les Allemands qui en ont fait un lieu d'exécution. Donc plus d'un millier d'otages et de résistants ont été exécutés. On ne connaît pas totalement le chiffre parce qu'évidemment les archives n'ont pas été toutes gardées. Et donc dès 1944, le général de Gaulle, qui connaissait très bien le lieu, a vraiment décidé de choisir ce lieu comme lieu de mémoire.
C'est-à-dire que le mémorial a été inauguré en 1960, mais voilà. Le général de Gaulle dès 1944, voilà, Songé à ce lieu en particulier pour rendre hommage aux fusillés, voilà, de la région parisienne. En fait.
Ça n'était pas le seul lieu d'exécution. mais c'est vraiment été le plus important en France, pas uniquement en région parisienne. Et donc bon, les choses ont pris un peu de temps et c'est en 1960 donc, que le mémorial de la France combattante a été inauguré. Alors, l'architecte choisi s'appelle Félix Bruno et une commande a été faite auprès de 16 sculpteurs différents, tous différents, pour réaliser ces hauts-reliefs. Alors, nous avons très peu d'archives sur le monument et les hauts-reliefs, donc on ne sait pas pourquoi il y en a eu 16, tout d'abord, sinon que ça fait écho aux 16 cénotaphes qui sont à l'intérieur de la crypte du mémorial, parce qu'il y en a un dernier qui est vide, qui sera occupé par le dernier compagnon de la Libération. Ils sont encore 42 aujourd'hui. Donc voilà, il y a 17 cénotaphes, mais 16 qui sont occupés par 16 en fait, représentants des combats qui se sont tenus durant la guerre.
À chaque haut-relief correspond en fait à un tombeau et une bataille ?
Correspond une bataille, ou plutôt un événement marquant de la guerre. Donc ça a été choisi de manière à couvrir en fait toute l'intégralité de la guerre, l'intégralité des conflits. On n'a pas plus d'éléments d'archives et notamment sur les choix des sculpteurs. Bon, comme je vous l'ai dit, notamment Landowski avait vraiment souhaité participer. Et en fait, sa participation était plutôt mal vue parce qu'il avait fait le voyage en Allemagne en 1942. Donc ça crée des remous et de lui-même, il a préféré in fine se rétracter.
Lydia Arambourg, qu'est-ce qu'on sait sur ce voyage des sculpteurs ?
C'est un voyage qui réunissait des artistes et des intellectuels français qui avaient été invités, je pense, par le gouvernement allemand, par les Allemands. Et certains ont fait ce voyage, je crois, vraiment habité d'une curiosité, encore une fois, intellectuelle et artistique. Donc, il n'y avait pas vraiment d'arrière-pensée politique ni d'engagement politique, sauf peut-être pour certains.
Gérard Lanvin ?
Oui, je crois savoir, puisqu'on parle de cette triste chose, qu'on avait fait miroiter aux participants une libération de prisonniers, une atténuation des peines. Enfin, certains, par naïveté, sans doute, se sont laissés prendre.
Alors, pour revenir à Landowski, pour cette raison, Landowski, après, s'est retiré de lui-même
voilà,
dans ce
bon,
projet.
On peut évidemment le comprendre. Donc, il s'agissait du mémorial de la France combattante, donc voulu par le général de Gaulle, pour rendre hommage à tous les combattants et notamment les résistants, tous les guerriers. Et évidemment, dans ce contexte d'immédiate après-guerre, la candidature de Landowski a été juste mal vue d'un point de vue uniquement politique. Elle n'était absolument pas en question ses qualités artistiques et esthétiques. Ah oui, Mayol a participé.
Qui d'autre a participé à ce voyage, Lydia Arambourg ?
Écoutez, il y avait Despio, il y avait Belmondo. Et c'est vrai que ce sont des artistes qui ont pâti après de cette Mayol, qui effectivement ont pâti de ce voyage qu'ils avaient fait, peut-être avec un peu d'inconscience, mais je crois qu'il faut tout remettre toujours dans le contexte. Aujourd'hui, on a tellement de recul qu'on est capable peut-être de se dire oui, pourquoi, comment n'ont-ils pas compris, mais les choses ne sont pas aussi clairement déclarées. Donc je crois que ce qui compte, c'est oui, c'était des immenses artistes, tous avec leur personnalité, leur langage.
Chloé Théo.
Et on peut justement souligner à ce propos le rôle du musée de Boulogne, du musée des années 30, qui a quand même beaucoup œuvré pour réhabiliter certains de ces artistes, dont Landowski ou même Despio, comme vous l'avez dit, ou d'autres, justement pour revenir sur ces artistes, mais avec un angle vraiment historique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les tensions étaient telles qu'on a préféré éviter d'exacerber en fait les sensibilités.
Lydia Arambourg, est-ce que vous pouvez nous présenter globalement l'époque de cette sculpture, la resituer dans le temps, nous présenter les sculpteurs qui ont été ici choisis.
Alors, 16 sculpteurs que j'ai découverts en arrivant sur ce lieu extrêmement impressionnant et très émouvant, très chargé. Alors, un certain nombre de sculpteurs toujours très connus des historiens de l'art. Par contre, j'avoue qu'il y a 2-3 sculpteurs qui sont quasi inconnus et sur lesquels j'ai vraiment rien retrouvé. Mais il y a quand même, disons, une dizaine de sculpteurs, oui, qui sont un petit peu plus, une bonne douzaine de sculpteurs qui sont très connus et qui comptaient parmi les grands noms de la sculpture. Mais il faut préciser quand même qu'à la fin de la guerre, il y a plusieurs tendances de sculpture et que les sculpteurs auxquels nous avons affaire ici au Mont-Valérien, ce sont tous des sculpteurs issus d'une formation, je dirais, classique. C'est-à-dire qu'il fallait quand même évoquer des hauts faits de la résistance ou de la guerre. Donc c'était une narration qui devait être lisible, accessible Et par conséquent, nous avons donc là des sculpteurs qui sont essentiellement figuratifs.
Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a frappé quand on est arrivé. Vous avez tout de suite noté et vous vous êtes exclamé, mais qu'est-ce qu'elles sont lisibles ? Et
oui, parce qu'on arrive, donc c'est une grande esplanade entièrement dégagée, très solennelle. Et en même temps, dans cette solennité, il y a quelque chose de serein, de reposé. Il y a, dans un lieu qui est forcément très habité par la violence, ça peut être étonnant ce que je dis, mais je pense qu'il y a une grâce maintenant qui s'est installée sur ce lieu. Ces 16 hauts reliefs qui, moi, m'apparaissent comme des métopes. Et ce sont vraiment des gros morceaux de sculpture qui sont donc en haut relief, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le volume total avec la troisième dimension, mais ces scènes jaillissent vraiment et c'est pour ça qu'on les voit de très loin. Et je pense que ça avait été tout à fait étudié et très perçu par les artistes eux-mêmes qui savaient où allaient être positionnées ces métopes, parce que ça fonctionne vraiment comme ces grands blocs de sculpture qui étaient donc insérés, articulés dans une façade de temple. Mais ici, on est au fond devant un temple laïque qui est édifié à la mémoire d'hommes et de femmes qui avaient placé la liberté au-dessus de toutes les valeurs humaines. Et c'est pour ça, je pense que ça fonctionne avec une intensité, une force qui, quelles que soient nos convictions spirituelles, si vous voulez, quand je parlais de grâce, c'est que vraiment là, il y a quelque chose qui sanctifie vraiment à la fois et ces événements et ces hauts faits, qui sont tous des faits forcément éminemment dramatiques, dans lesquels l'homme et la femme aussi, mais l'homme en tant qu'entité, la nature humaine a été là confrontée à quelque chose de tellement inhumain, on était dans la barbarie vraiment. Alors chacun, bien sûr, a traduit avec sa sensibilité, mais aussi avec son langage. Alors on a des métopes, je vais continuer à les appeler ainsi, qui sont d'une force, mais très bouleversante, qui vont très très loin, même dans un réalisme, je dirais, parce que certains sculpteurs ont été au plus loin du réalisme que l'on pouvait exprimer à ce moment-là.
Est-ce qu'on sait, Chloé Théo, quelque chose sur le choix des batailles et sur le choix des thèmes pour les commandes?
On n'a pas plus d'éléments, ça a vraiment été 16, soit batailles, soit même idées ou lieux tels que le Maquis, il y a le Paris libéré, il y a des batailles aussi qui sont représentées, il y a Bir Hakeim, il y a le 11 des fusillés qui est plus en rapport avec le lieu. Donc ce sont vraiment des, pas uniquement des faits, mais également voilà, des, ce qui peut représenter la guerre. Et donc on n'en sait pas beaucoup,
pas beaucoup plus. Lydia Rambourg, alors quels sont les 4 hauts reliefs réalisés par des académiciens?
Alors je vais citer les 4 noms. Alors il y a donc 16 sculpteurs, 16 métopes et ça se divise en 8. Donc la partie de gauche, 8 grands métopes et à droite la même chose. Donc à gauche nous avons Raymond Corbin et Claude Granger. Et ensuite, dans la partie de droite, Alfred Janiot et Raymond Martin. Là, nous sommes justement devant le grand haut-relief métope de Raymond Corbin. Et là, nous avons un exemple justement d'une sculpture qui est réaliste, bien sûr, mais qui est d'un esprit tout à fait allégorique. Raymond Corbin, il a eu comme thème celui du maquis. Donc le maquis, effectivement, c'est la nature, c'est souvent la forêt, les arbres. Il faut évoquer le côté de cache qui était celle des résistants. Donc nous avons un énorme visage très audacieux et très expressionniste dans le regard parce qu'il y a une attention qui a été portée aux yeux qui jaillissent vraiment de ce visage. Et ce visage se place dans l'écartement de 2 branches d'un arbre. Donc là, nous avons l'évocation effectivement de la nature et puis d'autres visages qui apparaissent sous les amorces de branches qui se détachent de ce tronc qui se divise en 2. Alors cette tête d'ailleurs me fait penser en la regardant à la tête de Rude qui est sur l'Arc de Triomphe. Et quand je parlais de cet héritage figuratif du XIXe siècle, c'est vrai que tous ces sculpteurs ont tous été des sculpteurs qui ont reçu beaucoup de commandes officielles, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé beaucoup de monuments aux morts, ils ont réalisé des statues équestres, ils ont immortalisé des grandes idées, on va dire, patriotiques ou toutes les grandes valeurs de l'humanisme et qu'on retrouve justement sur les frontons des mairies, des églises, des lycées, des écoles, des édifices publics, on va dire. Et là, on est vraiment devant des sculpteurs qui, je crois, sont vraiment enracinés dans un paysage de la sculpture laïque.
Bon, là, nous sommes devant le haut-relief de Claude Granger, qui était aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts et qui a réalisé une grande sculpture, là, sur force aérienne française libre. Et donc, on voit un combattant, Lydia Arambourg.
Oui, là, il y a un grand réalisme. Effectivement, on voit que c'est un aviateur qui est en pleine action, situé avec ses écouteurs sur les oreilles. Alors, l'aviation est évoquée par les ailes d'un oiseau. Enfin, c'est un rapace, puisqu'on voit au-dessus de la tête, en haut relief donc, de cet aviateur, les cerfs qui sont là presque agrippés, sa chevelure. Donc, on a quelque chose de plus expressionniste.
On a une idée de combat, là.
Tout à fait, il y a un engagement. Le regard, là aussi, dans tous ces hauts reliefs, quand il y a des visages, les visages sont de près, semblent excessivement expressifs, mais il faut savoir qu'encore une fois, ils doivent être vus avec du recul et qu'il faut que, justement, ben, comme les grands plafonds peints à l'époque du baroque, ils sont excessivement déformés, mais volontairement, pour que, justement, tout se rétablisse pour une vision naturelle quand on les regarde avec du recul. Alors, Granger a été un deuxième prix de Rome en 1911. Il a vécu assez longtemps, puisqu'il est mort en 1971, et il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1950. Et c'était un élève d'Inge Albert, qui a été justement un des grands sculpteurs de la première moitié du XXe siècle, qui a été le maître d'un certain nombre de ces sculpteurs appartenant à cette génération des années 30, 40, 50.
Donc là, nous sommes devant le haut-relief d'Alfred Janniot, qui est consacré au thème action, qui est symbolisé là cette fois par le refus de l'armistice de 40, symbolisé par l'appel du général de Gaulle, celui du 18 juin, du fameux 18 juin. Donc là, on a l'expression du sculpteur Janniot, lui aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts. Alors comment a-t-il traduit cette volonté d'action, Lydia Arambourg ?
Alors, c'est une composition qui est extrêmement classique, je dirais, mais ça, c'était l'héritage aussi de Janniot, qui était un grand admirateur de Jean Goujon. Et alors, cette composition, elle est complètement carrée, c'est-à-dire qu'elle épouse parfaitement le cadre imposé par
la commande.
Par la commande, puisque
on a oublié de dire, mais les 16 hauts-reliefs ont tous la même taille.
Ils ont tous la même taille, c'est un carré. Alors, certaines compositions, effectivement, débordent légèrement, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans l'ensemble, je peux constater que chaque sculpteur doit intégrer sa composition dans un cadre imposé, un peu comme les sculpteurs romans le faisaient lorsqu'ils avaient justement à faire rentrer une scène dans un chapiteau ou dans une archivolte. Alors là, avec Janniot, on a un personnage très déterminé, qui a une volonté qui transparaît dans son regard, la bouche aussi qui est entrouverte. Et on a ce mouvement du bras qui forme un L renversé en quelque sorte pour caler encore la composition.
C'est un carré dans le carré.
Absolument. Et alors, la troisième face, elle est clôturée par un poignard. Donc, il y a une volonté là, effectivement, et un appel au combat. Et le soubassement, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler le soubassement, et fait un énorme contraste avec cette tête qui est engagé dans le combat et dans une vigueur, dans une violence, encore une fois, eh bien, c'est un personnage qui est mort, apparemment. Les yeux sont clos, la bouche est entrouverte, donc c'est déjà un cadavre. Et la main du personnage qui appelle au combat retient cette tête, un peu comme on pourrait le voir dans une Pietà. Alors là, c'est bien sûr un thème éminemment laïque et guerrier, mais il y a un espoir qui transparaît. Et il y a deux mains qui sont là encore de l'autre côté, donc en réponse au visage. Ce sont les deux mains crispées qui essayent d'amorcer un geste de prière. Enfin, je ressens tout ça tout en regardant et
prière
en vous parlant.
Ou espoir.
Mais oui, ce sont ces mains qui occupent et qui traversent toute l'histoire de la sculpture. Donc des mains qui prient, des mains qui espèrent, qui appellent. La main, elle est au cœur de cette thématique de la sculpture. Donc on peut aussi penser à Rodin. Parce que tous ces métopes, au fond, qui sont des bronzes, donc qui ont tous été fondus et qui ont été réalisés à la fonderie Susse, eh bien, ces bronzes sont nés d'esquisses, de maquettes préparatoires qui sont bien sûr plus petites, qui ont été ensuite agrandies. Et au départ, ce sont soit des cires, soit des plâtres directs. Donc, après, c'est moulé, surmoulé pour suivant tout le processus de la fonderie, de la fonte. Mais il y a effectivement cet héritage à la fois des sculpteurs qui étaient dans le modelage, puisque c'était quand même la technique qui était la plus pratiquée en France durant tout le 19e siècle et qui continue à l'être au 20e siècle, alors qu'il y a une réaction qui se fait avec Bourdelle et avec surtout Joseph Bernard qui réintroduit le procédé de la taille directe. Alors, il faudrait avoir effectivement les documents, les archives concernant tous ces modèles préparatoires à ces bronzes parce que je ne sais pas, au départ, certains ont dû être faits en pierre, en taille directe, d'autres sûrement, certainement même par le procédé du modelage.
Gérard Lanvin, vous voulez ajouter quelque chose ?
Au sujet de cette sculpture de Janiot, que s'il y a une filiation, à mon sens, ce serait surtout avec Bourdelle. Et je pense à la grande sculpture qu'il a faite pour sa ville natale, je ne sais plus si c'est Montauban, oui. Et en particulier le guerrier aux mains brandies, aux bras étendus. On peut leur rappeler un peu cette figure.
Alors quittons ce haut-relief d'Alfred Janiot, une allégorie en fait de la France libre, pour maintenant parler de Raymond Martin, qui était lui aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts et que Gérard Lanvin a connu. Gérard Lanvin, vous pouvez nous présenter un peu d'abord Raymond Martin ?
Oui, Raymond Martin s'est surtout fait connaître par des sculptures comme le Foch de la place du Trocadéro, par le général Leclerc de la Porte d'Orléans, par encore d'autres choses, je pense à au Mangin de la fin de la Première Guerre mondiale, qui est derrière Saint-François-Xavier. Bon, c'est un modeleur, c'est comme ça que je l'ai perçu toujours, et je retrouve devant cette métope représentant, je crois, figurant, évoquant Birakem, un personnage qui tient une épée blottie contre elle. Il la respire, si on veut, un peu le désert, la déroule, enfin, beaucoup de malheur.
À quelle occasion vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré parce que ce qu'il avait fait, très jeune surtout, m'avait frappé. Et l'occasion s'est présentée grâce à des amis sculpteurs qui le connaissaient, d'aller le voir chez lui, d'une part. Et d'autre part, je l'ai revu plus tard à l'Institut, à l'Académie des Beaux-Arts. Mais il est mort dans les années, disons, il y a bien une dizaine d'années, oui, c'est ça.
Lydia Arambourg, qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour nos auditeurs ?
Effectivement, on sent bien une différence avec cette métope par rapport à d'autres. C'est qu'on sent vraiment le travail du modelage. On sent la main qui est vraiment confrontée à une matière qui est modelée. Et puis, c'est vraiment un portrait. Et ce qui me frappe, c'est que c'est presque même un portrait qui est personnalisé. C'est-à-dire que je pense qu'on sent que là, il y avait un modèle.
Contrairement aux autres au relief.
Oui, oui, qui sont beaucoup plus dans une allégorie et dans une métaphore visualisée, enfin figurée. Mais là, je pense que le nez, par exemple, puis aussi sur la tête, donc là aussi, sort du fond. Elle a eu beaucoup de profondeur, mais sur la droite de la bouche qui est entrouverte, il y a une espèce de boursouflure, un morceau de matière qui a été un peu, ou qui n'a pas été enlevé, ou qui correspond justement à la morphologie de ce personnage. Et effectivement, Raymond Martin était quelqu'un qui travaillait beaucoup d'après le modèle. Et là, ça se sent vraiment. Je crois que c'est une des rares méthodes qui montre que ce visage est vraiment le visage d'un modèle, de quelqu'un qui a une identité.
C'est un soldat, en fait, qui a subi l'épreuve du feu, là. Et d'ailleurs, on voit une flamme au centre, d'ailleurs, et dans la partie du soubassement, et qui guide qui la ligne vers le visage, le nez.
Ça permet aussi de cette flamme qui est amorcée, effectivement, tout à fait en bas et qui semble remonter, en quelque sorte, des profondeurs, donne aussi, par rapport à la tête qui avance vers nous, une simultanéité d'approche et qui donne beaucoup de mouvement à la tête, qui la rend mobile et qui ne l'affiche pas comme on peut le voir sur certaines autres métopes.
Avant de quitter le mémorial, on va peut-être évoquer le haut-relief de Maurice Calca, consacré au fusillé, qui se distingue de tous les autres parce qu'il s'éloigne justement de la figuration. Lydia Arambourg.
Ben là, je crois qu'on est vraiment devant une allégorie parce qu'il n'y a rien de figuré ou de figuratif ou de figural. Si ce n'est quand même qu'il y a des pics, il y a des sortes de losanges qui sont enchâssés sur ce qui apparaît un peu aussi comme une fenêtre, une claustra, mais qui serait complètement irrégulière, avec justement toute cette animation de formes géométriques qui symbolisent justement des lances, des piques, des poignards, enfin tous ces objets tranchants qui forcément sont porteurs de mort. Alors c'est très étrange parce qu'on a l'impression, enfin moi je crois voir une sorte de paquet ficelé qui aurait été frappé, déchiré justement par des coups d'armes blanches. Et puis alors c'est complètement fermé, c'est-à-dire qu'on sent très bien que là on est dans la fermeture, dans l'emprisonnement, on ne peut pas échapper au destin qui est là. Et
qui est l'oppression en fait.
Oui, oui. Total. C'est la violence traduite d'une façon abstraite et qui travaille beaucoup plus sur l'imaginaire que si on avait représenté peut-être des corps qui étaient en train de tomber sous les rafales des fusils, sous les rafales des balles.
Alors dans cette composition un peu plus abstraite, il y a quelque chose qui frappe tout de suite le regard, c'est que vraiment sortent, jaillissent. Des armes,
des lances, des pointes,
mais de façon beaucoup plus spectaculaire presque que sur les autres reliefs là. Hein. On a vraiment, elles jaillissent. Gérard Lanvin ?
C'est sans doute la pièce la plus agressive de l'ensemble.
Chloé Théo ?
Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce bronze-là, c'est qu'on retrouve une analogie formelle avec la herse du mémorial de la déportation, qui est exactement de la même époque, puisque le mémorial de la déportation, c'est 62, qui est derrière Notre-Dame. Tous ces reliefs ont été terminés en 1959, ça fait partie de la même politique mémorielle. Et on retrouve, si vous y allez au mémorial de la déportation, vous verrez ces pointes qui s'avancent. Voilà, et on retrouve exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire la sensation d'enfermement.
Oui, c'est un volume clos.
Merci.
Merci à vous.
Merci.